Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. RFI vous donne la parole et ce matin, je vous propose de réagir au verdict du procès de la Marocaine Aja Raïssouni, condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. L'affaire fait polémique au Maroc où de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer, je cite, une législation obsolète, moyenâgeuse, misogyne, des voix qui réclament le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors dites-nous si, comme au Maroc, ces questions sociétales font débat dans votre pays. Dites-nous si la législation doit évoluer. Vous continuez évidemment à nous rejoindre ici à Paris. Vos appels 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux et notamment la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va s'intéresser d'abord à la forêt amazonienne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Berlin.
Absolument.
On vous écoute, soyez la bienvenue.
Bah, écoutez, j'avais une question très simple, c'est que depuis le G7 et la réunion climat aux Nations Unies, de nombreux États ont promis en fait de l'argent pour protéger l'Amazonie. Or, comment est-ce que ces États peuvent délivrer cet argent puisque le président Bolsonaro a fustigé toute ingérence extérieure ?
Voilà. Effectivement, bonne question. Et je rappelle que la semaine dernière, pour sa première intervention à la tribune des Nations Unies, Jair Bolsonaro a clairement rejeté l'idée d'une intervention internationale en Amazonie. Il a même accusé certains pays d'avoir une attitude coloniale. Bonjour Agnès Rougier.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous suivez pour RFI les questions environnementales. On rappelle tout de même que l'Amazonie, ce sont 5,5 millions de kilomètres carrés de forêt dense et humide, une forêt qui joue finalement le rôle d'un climatiseur géant à l'échelle de la planète. La forêt amazonienne est à cheval sur 9 pays, mais 60% de sa surface se trouve au Brésil, là où la plupart des incendies se sont déclarés ces derniers mois.
Oui Juan, ces incendies d'ailleurs sont majoritairement volontaires, destinés à faire la place à l'agriculture, à l'élevage bovin, et ils accompagnent une déforestation galopante qui a augmenté de 88% par rapport à 2018, donc depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite en janvier 2019. Or, le 20 août dernier, des photos satellites montraient une augmentation de 77% du nombre d'incendies par rapport à la même période en 2018. Le lien donc entre la politique de déforestation prônée par Bolsonaro et les incendies semble évidente.
Alors Elisabeth l'a rappelé à l'instant, face à ces incendies gigantesques, des aides financières ont été promises pour aider l'Amazonie. De quoi parle-t-on exactement ?
Pendant le sommet du G7, en France du 24 au 26 août dernier, une première aide d'urgence de 20 millions de dollars pour combattre les incendies a été débloqué. Mais le 27 août, on s'en souvient, le président brésilien l'a refusé. Ensuite, les questions de la reforestation et de son financement ont été abordées le 23 septembre à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies lors d'une réunion sur l'Amazonie, qui s'est d'ailleurs déroulée en l'absence du président Bolsonaro. Et à l'issue de cette réunion, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l'ONG Conservation internationale ont annoncé 500 millions de dollars supplémentaires pour la protection des forêts tropicales, dont la forêt amazonienne. La répartition de cet argent devrait être fixée lors de la prochaine COP, la COP25, au Chili en décembre prochain. Et le président Macron a annoncé une contribution de la France à hauteur de 100 millions de dollars en dons et en prêts pour financer des projets destinés à développer une gestion durable de la forêt. Mais rappelons que la France, via la Guyane, a quand même 470 kilomètres de frontières communes avec le Brésil.
Oui, alors Bolsonaro, visiblement, lui, refuse cette aide. Il refuse en quelque sorte l'internationalisation de l'Amazonie. Il a même accusé Emmanuel Macron d'ingérence, de colonialisme, alors que l'Amazonie pourrait être finalement considérée comme un bien commun.
Oui, oui, mais le président brésilien est un climato-sceptique notoire. Il refuse d'admettre le lien entre déforestation, incendie et changement climatique. Mais une grande partie de la forêt est classée au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, ainsi que les cultures des peuples autochtones, ce qui suppose des obligations de la part du Brésil. Mais on ne peut pas mettre un État en prison. En revanche, citoyens et ONG peuvent faire pression. Et puis, il y a la pression économique. Le 23 août dernier, suite aux incendies, Emmanuel Macron accusait Jair Bolsonaro d'avoir menti sur le climat et il annonçait que la France s'opposait à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qui est le marché commun d'Amérique du Sud, hein, qui est en négociation depuis 2000. Et de son côté, le ministre des Finances finlandais, Mika Lintilä, a suggéré l'idée d'interdire les importations de bœuf brésilien dans l'Union européenne jusqu'à ce que le pays prenne des mesures pour mettre fin à la déforestation.
Et c'est peut-être par ce moyen-là qu'on peut obliger, contraindre le président brésilien Bolsonaro à accepter l'aide des Occidentaux, de la communauté internationale.
Oui, mais enfin, ça met le doigt où ça fait mal, hein, parce que les feux en Amazonie, derrière ces feux, il y a notre appétit pour le bœuf et le soja brésilien. Le Brésil est le premier fournisseur de soja en France. On importe annuellement plus de 2 millions de tonnes et l'Union européenne importe 87% de soja transgénique, majoritairement brésilien et destiné à l'alimentation animale. Bon, il y a une forme de schizophrénie. En 2015, les chefs d'État votaient l'objectif de neutralité carbone à la COP21, on s'en souvient, ce qui implique de favoriser les puits de carbone, dont la forêt amazonienne, pour absorber le surplus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais de l'autre, on porte atteinte à cet objectif. Et c'est donc aussi une responsabilité collective.
Elisabeth, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, je pense qu'il faudrait tout simplement arrêter ces importations. De toute façon, ça serait meilleur pour la santé.
Voilà, c'est ce que disait Agnès à l'instant. Agnès Rougier, on met là le doigt où ça fait mal, finalement. À suivre. Merci, Elisabeth. Bonne journée à Berlin. Agnès Rougier, à bientôt. Il est 10h17 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. De Berlin, nous allons à Goma, d'où nous appelle Paul. Bonjour, Paul.
Bonjour, Juan.
Des questions sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
Oui, l'Organisation Médecins Sans Frontières a déploré la gestion du programme de vaccination dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'est de la RDC. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que le MSF reproche à l'OMS.
MSF qui dénonce effectivement l'opacité de l'Organisation Mondiale de la Santé dans sa gestion de la crise Ebola. Bonjour Isabelle Defourny.
Bonjour Juan, bonjour.
Directrice des opérations à Médecins Sans Frontières, il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'en République démocratique du Congo, c'est l'OMS qui a intégralement en main la vaccination. C'est l'OMS qui gère l'intégralité des stocks de vaccins contre Ebola.
Oui, tout à fait, qui gère les stocks, qui établit les critères de, qui disent en fait qui peut être vacciné. Donc, mais vous savez qu'on est face à une épidémie d'une très grande ampleur en RDC, mais qui semble être en diminution actuellement. Ce qui est important, le fait marquant de cette épidémie, c'est que c'est la première fois qu'il existe une façon de protéger et de traiter les personnes atteintes par la maladie à virus Ebola. Donc, aujourd'hui, on a des traitements qui sont utilisés en RDC dans un essai clinique et deux de ces traitements ont montré des résultats assez exceptionnels. Si les personnes arrivent tôt au centre de traitement, ce sont 9 personnes sur 10 qui vont survivre. On a donc ces traitements et on a aussi des vaccins à notre disposition et ce sont des vaccins qui protègent très efficacement. Par exemple, chez MSF, lors de la précédente épidémie en Afrique de l'Ouest, 28 de nos staffs nationaux et internationaux avaient été contaminés, parmi eux 14 sont décédés. Et ici, en RDC, ce sont 3 staffs qui ont été contaminés et 0 décédé.
Alors à MSF, vous accusez l'OMS de rationner le vaccin.
Mais oui, en fait, mais parce que ce que je voulais dire, c'est que malgré donc ces deux outils extrêmement efficaces, au global, la mortalité reste extrêmement élevée. On parle de plus de 3000 cas et 2000 décès, donc plus de 60% de mortalité. Et ça, c'est lié sans doute au fait que les personnes arrivent trop tard au centre de traitement, mais on pense aussi que c'est lié à une utilisation trop parcimonieuse des vaccins. Donc on a trouvé bon de faire connaître publiquement des discussions qu'on avait en bilatéral avec l'OMS sur 3 points. Le fait que c'était impossible de connaître de façon transparente les stocks de vaccins qui étaient alloués pour la RDC, donc difficile de travailler sur la meilleure stratégie. Le fait que les critères de vaccination sont trop stricts. Et puis le fait aussi qu'on est sur une mise en œuvre de la vaccination très lourde, très lente, très compliquée et qui peut être allégé. Et la conséquence de tout ça, c'est un nombre insuffisant de personnes vaccinées.
Ouais, vous estimez que 2000 à 2500 personnes pourraient être vaccinées chaque jour, alors que le rythme actuel de vaccination est de 500 à 1000 personnes.
Oui, tout à fait. Les rythmes de vaccination changent toujours un petit peu chaque jour, mais grosso modo, oui, on estime qu'il était possible de rendre ce vaccin disponible au double de personnes, en fait. Ouais.
J'allais un peu au-delà de la question de notre auditeur Paul, qui est en ligne et qui souhaite encore vous interroger, Isabelle de Fourny. Avez-vous des explications? Pourquoi l'OMS applique-t-elle de telles restrictions? Alors que le vaccin est là, hein, visiblement, les stocks sont conséquents.
J'ai pas les explications exactes. Je pense que voilà une des difficultés à la mise en œuvre. Je pense que c'était le fait que tout soit centralisé auprès d'une seule agence et que c'est une erreur parce que finalement sur cette maladie à virus Ebola, on a quand même plus de questions que de réponses. Ces vaccins sont assez nouveaux, ces traitements sont assez nouveaux, donc. Rendre disponible, mettre en œuvre quelque chose d'extrêmement compliqué. Et nous, on pense que d'ouvrir la problématique à plusieurs acteurs, et notamment des acteurs de terrain, permettrait d'avancer plus rapidement. Quoi.
Allez, Paul, vous avez une autre question.
Oui, le MSF appelle à la mise en place d'un comité de coordination internationale indépendant du vaccin. Est-ce possible? Peut-être comment s'organiserait ces comités?
Un comité de coordination internationale indépendant pour gérer la vaccination. Comment envisagez-vous ce scénario, Isabelle de Fourny?
Mais on s'est inspiré de plusieurs exemples qui ont bien fonctionné dans le passé. Enfin, le principal exemple, c'est un mécanisme qui s'appelle l'ICG, qui est un mécanisme qui a été créé pour faire face à une pénurie de vaccins contre la méningite. À un moment, il y avait beaucoup d'épidémies de méningite. Donc, c'était un groupe de plusieurs acteurs, nationaux et internationaux, qui établissaient des critères objectifs et transparents pour allouer ces vaccins. Alors, dans ce cas-ci, c'est un vaccin qui n'est pas enregistré, contrairement au vaccin contre la méningite. Donc, ça, c'est une considération technique, mais qui peut sans doute être surmontée. Mais on s'inspire aussi, finalement, de la façon dont a été mené l'essai clinique sur les 4 traitements en RDC. Cet essai-là, il était suivi par un groupe d'experts congolais et internationaux, par des personnes de l'OMS et par des agences qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ces traitements. Et là, ça a permis de suivre les résultats, de connaître les stocks de traitements, et puis ça a permis aussi à côté des groupes de travail qui ont établi les meilleures façons de prendre en charge des patients. Donc ça, c'était une expérience réussie à notre sens en RDC, menée par les autorités congolaises et qui a donné très rapidement des résultats vraiment intéressants. Quoi.
Merci Isabelle de Fourny, directrice des opérations à Médecins Sans Frontières. Paul, bonne journée à Goma. On repasse très vite au standard au 33 9 693 693 70. Nous avons contacté ce matin, une fois de plus j'ai envie de dire, mais elle répond toujours présent pour dialoguer avec les auditeurs de RFI, Catherine Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni. Pas une semaine ne passe sans que nous ayons au standard ou sur la page Facebook de l'émission, des questions concernant le Brexit. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver, tellement les rebondissements sont nombreux au Royaume-Uni. Gilles, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Cotonou et nous vous écoutons avec Catherine Mathieu.
Ok, Juan. La Cour suprême britannique a jugé illégale la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson. Par conséquent, le Parlement a réouvert la semaine dernière.
Oui.
Quelle incidence la réouverture du Parlement peut-elle avoir la date butoir de sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Ah,
qui est prévu au 31 octobre.
Au 31 octobre, effectivement, dans moins d'un mois, Catherine Mathieu. Ce qui est sûr, c'est que, certes, ça a été un coup dur, cette décision de la Cour suprême britannique. Coup dur pour Boris Johnson, mais le Premier ministre, lui, n'en démord pas. Il dit que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord.
Oui, alors c'est sa position depuis de nombreux mois, Boris Johnson, de dire que effectivement, quoi qu'il advienne, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, le 31 octobre au plus tard. Mais ce qu'a permis le Parlement britannique, c'est de voter un texte qui, en fait, empêche Boris Johnson de décider que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord. au 31 octobre oui. pour le Parlement britannique, s'il n'y a pas d'accord, il faut que Boris Johnson demande un report à l'Union européenne et que ce report porte au moins jusqu'à janvier 2020 avant qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne puisse être envisagée.
J'entends bien, Catherine Mathieu, mais dans les couloirs du Parlement britannique, il se dit que Boris Johnson va tout faire pour trouver le moyen de contourner cette loi votée effectivement début septembre.
Oui, alors effectivement, c'est ce que disent un nombre assez important de parlementaires britanniques. Bon, on a du mal à voir aujourd'hui comment Boris Johnson pourrait s'affranchir de cette loi qui a été votée par le Parlement britannique. Peut-être pourrait-il le faire, mais personnellement, je ne vois pas comment, même auprès de sa majorité parlementaire, il pourrait faire passer ce genre de décision. Alors je pense qu'en fait, la posture de Boris Johnson actuellement, c'est de dire auprès de l'Union européenne, nous souhaitons, le gouvernement britannique, que le Brexit ait lieu, qu'il faut arrêter de discuter, ça fait 3 ans qu'on discute autour du Brexit, et que, avec ou sans accord, nous sortons le 31 octobre, mais, ajoute Boris Johnson, ce qu'il souhaite, c'est faire un accord avec l'Union européenne. Donc je pense qu'actuellement, il est plutôt dans une position d'obtenir un accord avec l'Union européenne, ou s'il n'y a pas d'accord, en tout cas que ça ne repose pas sur sa responsabilité à lui.
Ouais, on va reprendre Gilles dans un instant, car une deuxième question à vous poser, Catherine Mathieu, mais imaginons ce scénario. Boris Johnson décide de ne pas respecter la loi votée par les députés. Que se passe-t-il ?
Ah ben, à ce moment-là, les députés peuvent tout à fait dire légitimement que Boris Johnson ne respecte pas le vote du Parlement, que ce n'est absolument pas une décision démocratique. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a déjà eu une décision de la Cour de justice britannique, de la Cour suprême, disant que Boris Johnson n'avait pas le droit de suspendre le Parlement oui. pendant une période aussi longue comme il l'a fait. Mmh. Donc, très très probablement, immédiatement, les parlementaires agiraient pour éviter que Boris Johnson fasse cette sortie sans accord le 31 octobre.
Ouais, parce que j'ai lu ici et là, mais alors je ne sais pas si les experts que j'ai lus ont raison, que Boris Johnson, s'il ne respectait pas la loi, serait poursuivi en justice.
Bah, très, très probablement, parce qu'en tant que Premier ministre, il doit respecter, et surtout en tant que démocrate, il doit respecter le vote du Parlement britannique.
Évidemment. Gilles, ouais. Vous avez une autre question?
Oui, effectivement, ben, à 30 jours de la date de sortie prévue, est-ce qu'il est encore possible pour le Royaume-Uni de trouver un accord avec l'Union européenne?
Bon, en tout cas, c'est l'objectif de Boris Johnson, trouver un accord avec l'UE. Est-ce possible, Catherine Mathieu?
Alors, c'est son objectif, effectivement, à Boris Johnson. Aujourd'hui, Boris Johnson va faire un discours devant le Congrès des conservateurs où il doit présenter un plan qu'il va soumettre cet après-midi à l'Union européenne pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord. Un plan qui concernerait la fameuse question de la question irlandaise, hein, oui. qui est vraiment le point sur lequel actuellement le gouvernement britannique a vraiment un grand désaccord avec l'Union européenne. Donc, ce que souhaite Boris Johnson, c'est qu'il n'y ait pas que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, mais que le backstop, le filet de sécurité qui ferait qu'en cas de sortie sans accord ou en cas d'absence d'accord avec l'Union européenne, il n'y aurait pas de retour d'une frontière en Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc, ce qu'essaye de faire Boris Johnson aujourd'hui, c'est de proposer un plan dans lequel, effectivement, l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière avec l'Union européenne pour ce qui concerne le commerce de marchandises et le commerce agroalimentaire, qu'il le resterait au moins pendant une période de 5 ans, et qu'au bout de 5 ans, ce serait le Parlement nord-irlandais qui déciderait si l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière avec l'Union européenne ou avec le Royaume-Uni. Alors ça, ce sont les grandes lignes du plan qu'on a vu aujourd'hui annoncé dans la presse.
Dans la presse, notamment le Télégraphe qui a annoncé en exclusivité ce plan que dévoilera dans la journée cet après-midi Boris Johnson. Merci beaucoup Catherine Mathieu, bonne journée. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Gilles, merci de votre fidélité, merci de nous écouter à Cotonou. D'autres questions à la rédaction et à nos experts demain matin. D'ici là, vous nous appelez, aucun sujet n'est tabou. Toutes les questions nous intéressent, donc profitez-en, abusez du téléphone 33 9 693 693 70. Et si vous postez des questions sur les réseaux sociaux, envoyez-nous évidemment en message privé vos coordonnées afin que nous puissions l'émission. Vous rappelez, 33 9 693 693 70, c'est le numéro que vous continuez à composer pour notre débat du jour. Ce sera dans 10 minutes et on reviendra sur cette condamnation qui fait polémique au Maroc, la condamnation de la journaliste marocaine Aja Raouissouni pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.